le mandat missionnaire, hein, fait de toutes les nations des disciples. Remarquez, lorsque Jésus dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, allez, faites des nations des disciples. » Donc la source de l'autorité pour enseigner vient de cette autorité de Jésus. Et son mandat d'enseignement, c'est pas, on l'a réduit trop souvent à l'enseignement cultuel, hein, alors que l'enseignement de Jésus, quand il s'agit de tout enseignement. Hein, de tout, et puis vous avez le mandat culturel, on l'a vu tout à l'heure. À cause de ces deux mandats, missionnaire, culturel, le fondement théologique de la vocation de l'école chrétienne s'enracine dans ses commandements et l'Église, dans l'histoire, a compris ces commandements et a toujours, s'est toujours occupée donc d'école jusqu'au XVIIIe siècle en particulier. Alors, j'aimerais qu'on avance parce que ces deux mandats, il n'y a pas que ces deux mandats qui sont la base biblique du mandat d'enseignement de l'Église, mais il y a aussi parmi les 10 commandements, et j'aimerais qu'on prenne les deux premiers. S'il y avait dans la Bible juste les deux premiers commandements, ça justifierait bibliquement la nécessité d'école chrétienne. Alors, le premier, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, donc tu vas adorer que l'Éternel, lui-même, le seul Dieu. On a vu tout à l'heure que la culture était l'expression d'un culte. On avait vu qu'il n'y a pas de pédagogie neutre. On a vu que tout pédagogue adore un Dieu. Jacques Maritain nous le dit. Et donc, voilà, lorsqu'on prétend dire « je ne veux pas adorer de Dieu dans ce domaine », eh bien, automatiquement, on va en adorer un. Et par exemple, on peut adorer l'homme. Ça va s'appeler l'humanisme. On va toujours... Nous sommes des êtres d'adoration. Donc, si on n'adore pas Dieu, on adore ou soi-même, ou l'argent, ou l'économie, ou le bien-être, ou le confort. On va toujours servir une idole. Vous voyez, le mot idole en français vient du mot icon en grec, c'est le mot idée. C'est-à-dire, une idole, ce n'est pas forcément la statue ou tout ça. Une idole, c'est une idée. D'accord ? Donc, toute pédagogie est un système d'idées, des idées sur l'éducation, sur l'enfant. Des idées qui ne sont pas enracinées bibliquement deviennent des idoles. L'idolâtrie, ce sont des idées qui s'éloignent de la parole de Dieu, tout simplement. Hein ? C'est vouloir avoir des idées sans lui. Or, le Seigneur est un Seigneur qui veut nous donner des idées, lui, les siennes, sur tous les domaines. C'est ça qui est riche. Alors, le deuxième commandement, on va le lire, tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, tu ne les serviras pas, car moi, je suis l'Éternel ton Dieu, un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères et sur les enfants, jusqu'à la troisième et quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment, qui gardent mes commandements. Alors, ce qui est très intéressant ici, c'est que vous avez le double aspect de « tu ne te feras pas de représentation de ce qui est dans le ciel ». Alors, dans le ciel, par exemple, la première chose, c'est Dieu. En fait, Dieu nous dit « je ne veux pas que tu te fasses tes propres idées sur moi ». Dieu nous dit « les idées sur moi, prends-les dans ma parole. Ce n'est pas à toi de te forger qui je suis. C'est moi qui donne les définitions, dit Dieu. C'est moi qui dis qui je suis. Prends-le dans ma parole. » Ce n'est pas à toi de faire tes idées à toi. C'est ça, ça veut dire, ne te fais pas de représentation de ce qui est dans le ciel sans ma révélation. C'est ma révélation. Ce n'est pas à toi tout seul. Alors vous allez me dire, bon, d'accord pour les choses du ciel. Mais regardez, ça continue. Tu ne te feras pas de représentation des choses qui sont en bas sur la terre. Et là, les amis, on touche à l'école et à l'université. C'est quoi l'école ? Sinon de proposer aux enfants une représentation du monde. Une vue sur le monde, sur ce que c'est le monde, sur ce qu'est l'homme. C'est ça l'école. Je ne connais aucun programme scolaire ou une universitaire qui ne soit pas une représentation d'un domaine de la réalité. Les facs d'économie vous proposent une représentation de l'économie. C'est ce qui est sur la terre. Dieu dit, tu ne te feras pas de représentation. C'est-à-dire, sans moi, attention, ma parole donne le cadre, donne le sens, donne la direction. Même dans l'économie, ma parole a quelque chose à dire. Dans le domaine politique aussi, sur le gouvernement, sur toutes choses. Et c'est ça le fondement biblique. Hein. Donc, pas de représentation. L'école est un lieu où l'on forge des représentations. Voilà. C'est clair, c'est net. Et Dieu dit, voilà, je veux que tu te fasses tes représentations avec moi. Avec moi. Je veux illuminer les yeux de ton cœur pour que tu vois comme je vois. Voilà. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Le cœur dans la Bible, ce n'est pas seulement le lieu des sentiments. Le cœur dans la Bible, c'est le lieu où je pense. Et les yeux du cœur, c'est la façon de voir les choses et le monde. Donc, vous voyez, le mandat d'éducation de l'Église, d'enseignement, eh bien, c'est le mandat de transmettre une représentation de Dieu et du monde avec lui. Voilà, pas sans lui. C'est ça l'idée. Alors ensuite, vous remarquez qu'il est dit, je suis un Dieu jaloux. Ça, c'est le problème avec Dieu, il est jaloux. Il veut tout, quoi. Hein ? Tu dis, non, ça, ce domaine, c'est ça, je garde quand même. Non, tu ne gardes pas, c'est à moi. Mince alors, il y a tout. Il veut tout, même mon argent, il veut. C'est incroyable, ce Dieu-là. Un Dieu jaloux. Alors, nous avons un Dieu jaloux, les amis. Il veut influencer tous les domaines. C'est un père qui veut ses enfants à lui. Voilà. Et je suis le papa, c'est moi qui vais enseigner. C'est un peu simple, quand même, cette vision. Hein. Un peu simple, si on veut. La maison du père, c'est la maison où l'on forme, où l'on éduque. J'aime bien l'exemple de Timothée, dans la Bible, éduqué avec sa maman et sa grand-maman. Dans la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, ça serait scandaleux, ça. Non seulement que des femmes qui enseignent, comment vous allez former un homme préparé à affronter le monde romain avec des femmes et puis la parole de Dieu seulement? Il faut quand même ouvrir l'esprit de cet enfant. Il faut ouvrir son esprit. Aujourd'hui, les pédagogues, les psychologues, ils se régaleraient. Timothée, qui sort de cette éducation, il bouleverse le monde. Plus jeune missionnaire. Pas 40 ans de désert. Hein. Immédiatement performant. La parole de Dieu, elle forme les hommes et les femmes de Dieu, plus que n'importe quel fondement. Elle les prépare à affronter la vie, plus que n'importe quoi. Je peux vous assurer, là, l'exemple de Timothée. Alors, le mot éduquer aussi, le mandat d'éducation de l'Église, est-ce que vous savez que le mot éduquer, il sort des Écritures ? Il sort de la parabole de Jésus, dans Jean 10, lorsque, dans la version latine, il est dit: il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, il les conduit dehors. En latin, la version latine de la Bible, c'est éduquit. Le mot français, éduquit, éducation, vient de éduquit, parabole du bon berger, conduit dehors. Impressionnant quand même. 14e siècle. Donc le mot éducation parle du mot du bon berger en français. Et nous on dit, on veut éduquer, mais on n'a pas besoin du bon berger. Mais le mot lui-même, il vient de Jean chapitre 10. Oh là là. Alors, voilà, citation d'un théologien, M. Tozer, j'aime beaucoup, je ne sais pas si vous connaissez, il a plusieurs livres qui sont de lui, et il a dit ceci: la conception selon laquelle le premier devoir de l'Église est de répandre l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre est fausse. Son premier devoir est d'être spirituellement capable de le répandre. Répandre parmi les païens un christianisme dégénéré, moribond, ce n'est pas accomplir le commandement du Seigneur. Quand on voit, par exemple, l'effort de formation au Moyen-Âge pour faire des hommes de Dieu, quand vous avez 30 ans d'études, c'est évident que la culture est influencée. Et aujourd'hui, on veut faire des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, avec une heure d'école du dimanche. C'est-à-dire, attends, ça, on ne fait pas le poids, les amis. Hein. La vision de la formation au niveau de l'Église, je peux vous assurer, c'est impressionnant. La vision de la formation au niveau des réformateurs, c'est impressionnant. Et la Bible, il fallait la lire dans le grec et l'hébreu. Hein, et c'est donc une vision de la formation dans l'histoire de l'Église très, très importante. Très importante. Ensuite, le champ de l'enseignement, on l'a vu tout à l'heure, ce n'est pas seulement le domaine culturel, le mandat d'enseignement de l'Église. C'est le domaine culturel, bien sûr. Éphésiens 3:10, l'Église, expression de la sagesse infiniment variée de Dieu. La sagesse de Dieu, tellement variée, tellement riche. Le domaine artistique, tous les domaines. Et une sagesse de Dieu variée, riche en couleurs. Voilà, ça c'est notre Dieu. Et puis aussi, Colossiens 2:3, on l'a vu, Christ en qui sont cachés. Ils sont cachés tous les trésors. Je dis, mais Seigneur, mais pourquoi tu les caches? Mince alors, il faudrait quand même les montrer. Mais Dieu, le plus grand pédagogue, il dit, mais dis-moi, si tu les cherches, Tu vas avoir le plaisir de découvrir. C'est un grand pédagogue, le Seigneur. Faut chercher, mon ami. Faut chercher. J'ai des tas de choses à te montrer. Cherche. Et tu vas trouver. Et alors, on cherche. On est tellement content d'avoir trouvé qu'on s'est approprié ce qu'on a découvert. Notre Dieu, il est comme ça. Et je suis convaincu qu'en pédagogie, il y a des richesses qu'on n'a pas explorées encore. Et Dieu aimerait nous les montrer. Nous les montrer. Discuter. Parfois, je rêve un peu et je me dis, tiens, pourquoi pas enseigner en chantant? Pourquoi pas, quelle est la place de la danse dans l'école? Pourquoi on enseignerait entre quatre murs? Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autre façon d'enseigner Jésus qui marchait, qui se promenait? Et les Juifs, ils savaient ça. On apprend beaucoup mieux en bougeant, en marchant, qu'en étant assis. D'où vient cette idée d'apprendre en étant assis tout le temps? Seigneur, toi, qu'est-ce que tu ferais? Donc, je peux vous assurer, si on commence à gratter et à poser des questions à Dieu, attention, parce que ça, on se dit, oulala, où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Alors ensuite, le mandat d'enseignement de l'Église, c'est le commandement de Jésus qui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, ton prochain comme toi-même. Et donc, on l'a dit, comment est-ce que je peux aimer Dieu avec ma pensée si j'apprends à penser sans Dieu? Donc, l'école chrétienne, c'est en particulier le lieu où l'on apprend à penser. Toute école, d'ailleurs, c'est un lieu où on apprend à penser. Et j'aimerais vous montrer, dans ce mandat d'enseignement de l'Église, qu'il y a quelque chose d'extrêmement important qu'on va trouver dans Romains chapitre 1, qui parle justement du rôle important de la formation de la pensée. On va lire le texte. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur en fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Donc, qu'est-ce qu'il est dit ici? Là, c'est la description de la pensée occidentale aujourd'hui. Une pensée qui est égarée. Comment elle s'est égarée? Elle a dit, voilà, il y a des choses visibles et ces choses visibles, elles ne disent rien sur l'invisible. Il n'y a pas d'invisible. Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Si tu ne fais pas le lien entre le visible et l'invisible, ta pensée, elle est obscurcie. Elle a commencé à errer. Et donc, c'est quoi l'école chrétienne? C'est refaire le lien entre les choses visibles et les choses invisibles. Et Dieu s'est révélé de trois façons. Il s'est révélé par sa parole, il s'est révélé par son Fils, Jésus-Christ, et il s'est révélé par sa création. La création est un livre de Dieu. Et ce qui est terrifiant, c'est qu'on peut étudier toute sa vie, et on n'a même pas appris à lire dans ce livre et à y discerner le doigt de Dieu. Dieu voudrait lever une génération qui lise dans le livre de la création et qui y voit la splendeur et la marque de Dieu. Les cieux, me dit la Bible, racontent la gloire de Dieu. Et les hommes un jour ont dit, les cieux ne racontent rien du tout. Et on a gobé. Et Dieu nous dit, je veux lever une nouvelle génération qui va lire et entendre le discours de Dieu au travers de sa création. La pensée revient à la maison du Père, revient chez papa. T'as assez de problèmes comme ça, reviens. Métanoïa, repentance, en grec, ça veut dire changer de pensée. Voilà. Ce n'est pas seulement pleurer sur ses péchés. C'est je change d'orientation, je change de pensée. C'est une pensée qui va reconnaître Dieu. Alors, on continue la suite, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, qui ont adoré et servi la créature au lieu du créateur. C'est quoi ça? C'est ce qu'on appelle en philosophie l'humanisme. J'adore la créature. Donc l'éducation, ça va être pour la créature, vous voyez? On détourne les finalités. Et donc nous avons ici ensuite une description de dérèglement des comportements qui, bibliquement, ne viennent pas que d'une rébellion, comme ça, mais qui viennent d'une façon de penser, qui refuse de penser avec Dieu. Et donc, si vous voulez, nous on est là, chrétiens, on fait des pétitions et tout ça, et c'est bien, je veux dire, par rapport à la vie, contre l'avortement, tout ça. Mais pendant qu'on manifeste et qu'on fait nos pétitions contre l'avortement, eh bien tous nos enfants en classe de 4e, ils sont enseignés en disant, mais attendez, l'embryon, c'est pas un être humain. Donc, on est toujours après coup. On vient après coup, Dieu dit, maintenant ça suffit, travaille dans les racines, enseigne. Et on sait, c'est comme ça qu'on va toucher une culture et qu'on accomplit le mandat culturel. Donc comme on continue, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, voyez, Dieu les a livrés à leur sens réprouvés tout, comme étant toutes choses indignes, etc. Donc ça c'est le caractère, le comportement et le fruit d'une façon de penser qui est tordue. Ça c'est ce que la Bible me dit. Alors, je ne dis pas que tout vient de là, mais si nous, on ne s'occupe pas de la formation de la pensée, on va toujours récolter des façons d'agir tordues. Voilà. Et ça, c'est ce que l'Épître aux Romains me dit, et l'Épître aux Romains m'explique l'importance d'une formation qui fait qu'on reconnaisse dans le visible la marque de l'invisible. Et ensuite, vous avez Éphésiens 4, vous connaissez le passage, voici donc ce que je dis, ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur pensée. On marche toujours d'après ce que l'on pense. Voilà. Donc, il est bien évident que le combat spirituel, il est d'abord dans le domaine des pensées. C'est là que ça se passe. Parce que ça va déterminer tout le reste. Donc, nous, chrétiens, on a un mandat pour former la pensée. De façon à ce qu'il y ait des marches qui marchent autrement. Des gens qui marchent autrement. Alors, on continue. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause d'ignorance qui est en eux, à cause d'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits. En lui. Hein ? C'est-à-dire à vous dépouiller, égard votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Alors là, mes amis, il y a quelque chose de très fort. La sainteté, la vérité produit la sainteté. Il y a des tas de gens qui m'ont dit, mais Luc, attends, il faut que les enfants ils soient au contact de l'erreur et pour être préparés à affronter ce monde et être pertinents dans ce monde. Et l'erreur n'a jamais formé quelqu'un. La vérité, elle conduit à la sainteté. Donc, que tout ce qui est vrai, dit la Bible, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est beau soit l'objet de tes pensées. Et nous, on a pensé, mais non, c'est quand même bien d'avoir des choses un peu impures. On est dans le monde, on va connaître ce monde, c'est mieux, on va pouvoir discerner comme ça. C'est bien, c'est très bien. Je veux dire, attendez, mais comment on pense là? Est-ce qu'on pense comme nous, on a appris à penser, ou comme Dieu veut que l'on pense? Donc voilà, la vérité, elle produit la justice, la sainteté. Et voyez, je crois que l'école chrétienne, le mandat d'éducation de l'Église, c'est le mandat de la réconciliation, en fait. Dans le jardin d'Éden, le péché nous a séparés de Dieu, mais pas seulement de Dieu, de nous-mêmes, la honte qui vient, de la relation avec Ève, donc de mes amis, de mon prochain, mais aussi, elle m'a séparé d'une juste relation avec la création. Et dans l'école chrétienne, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on cherche à réconcilier tous ces domaines. Et chaque fois qu'on voit une matière scolaire comme étant un aspect de la création de Dieu, on va travailler à une réconciliation avec Dieu. Ça veut dire une pensée qui le reconnaît dans toutes ses dimensions. Voyez, donc Éphésiens 1, le mystère de la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Si on a la vision de Dieu de la terre, eh bien, je peux vous assurer que la pensée est transformée. La Bible dit, un jour, j'ai enseigné le français longtemps, en 4e, 3e aussi, et en cours de grammaire, bien sûr, on enseigne les subordonnées consécutives, afin que... Alors j'ai trouvé le verset biblique, Romains 12, et j'écris au tableau, soyez renouvelés dans l'intelligence afin que vous discerniez la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et pendant que j'étais au tableau, tout d'un coup Dieu me parle. Et Dieu me dit, tu vois, si l'intelligence n'est pas renouvelée, il y a l'incapacité de discerner ma volonté. C'est pour ça que je veux former les intelligences. Et c'est pour ça que l'ennemi veut avoir l'usage exclusif de la formation intellectuelle, parce qu'il ne veut surtout pas, même chrétien, surtout pas qu'on discerne la volonté de Dieu. Et ça, mes amis, il y a quelque chose de très fort là. L'intelligence nous a été donnée par Dieu pour l'adorer, pour le servir. Martin Luther disait ceci, 16e siècle, l'ennemi se soucie bien moins de mon esprit que de ma plume. Mon esprit ne lui ravit rien du tout, mais ma plume, c'est-à-dire ma capacité intellectuelle à servir Dieu, ça le fait des ravages. Il avait compris le champ de bataille et la formation intellectuelle, entre autres, surtout. Donc voilà l'enjeu. Et alors, quelques éléments de l'histoire. Dans Jérémie, il est dit ainsi par l'Éternel, « Placez-vous sur les chemins, regardez, demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, et marchez-y, et vous trouverez le repos de vos âmes. » Le mandat d'enseignement de l'Église, quelques petits flashs rapides. Mais si on prend par exemple les Juifs, regardez, qui c'est qui parle dans Proverbe ? Mon fils, reçois l'instruction, reçois. Tout ça, tous ces versets, mon fils, n'oublie pas mes enseignements. C'est David qui parle à Salomon. Et nous avons dans la tradition juive, il ne s'agit pas forcément du père biologique qui parle mon fils. Hein. Il s'agit de. Ça peut être l'oncle, ça peut être le tonton, ça peut être l'enseignant, l'instituteur. Mais ce que ça me montre, c'est que la relation est une relation paternelle. C'est-à-dire, c'est un climat de famille, en fait. Et l'éducation, selon Dieu, c'est dans un climat de famille. C'est une affaire de famille. Famille au sens large du terme. Famille de Dieu. Mon fils, ma fille. Ce climat-là, c'est le climat pour enseigner. Quand on dit dans les facultés pour former les enseignants, vous êtes des professionnels. Ne vous investissez pas affectivement. Vous n'êtes pas les parents. Nous sommes aux antipodes de la vision biblique de l'enseignement. L'apôtre Paul qui dit « Je voulais être comme un père pour vous, j'aurais voulu vous donner ma vie et pas seulement l'enseignement. Je souffle les douleurs de l'enfantement, etc. » Ça, c'est le langage d'un enseignant qui a le cœur d'un père. Et l'éducation chrétienne, dans l'histoire de l'Église, le mandat de l'éducation, c'est toujours été à l'intérieur d'une vision de famille et d'une atmosphère familiale. Salomon a été le roi. Une éducation royale est une éducation paternelle et familiale. Alors, on continue. Tous les proverbes, vous avez 1, 2, 3, écoutez mon fils, l'instruction d'un père. Donc, c'est la connaissance, l'instruction dans le cadre de l'Alliance. Et Adam, le premier homme, était appelé fils de Dieu. La dimension de famille, de fils. C'est une affaire de fils et de filles. Voilà. L'éducation est une affaire de père, mère, fils et filles. Vous sortez de ce cadre, vous sortez du cadre biblique. Vous pouvez mettre tous les professionnels que vous voulez. Vous enlevez ce cadre de l'affection. Vous n'avez plus le cadre biblique pour enseigner. Donc, Dieu a prévu ça comme ça. Alors, regardez la tradition de l'Église. On prend 2e siècle après Jésus-Christ. Le maître doit être doux et ferme, Clément d'Alexandrie. Nous sommes 160-220 après Jésus-Christ. Il doit saisir avec vigueur le gouvernail jusqu'à ce que l'enfant ait jeté l'ancre dans le havre des cieux. C'est beau ça, hein ? Jean Chrysostome parle aux parents, 4e siècle. Élève un athlète pour le Christ. Élever des enfants, c'est surtout leur inspirer la crainte et l'amour de Dieu. Former leur jeune cœur à la sagesse, à la piété. Et puis cette phrase extraordinaire. Le maître s'abaissera jusqu'à l'enfant pour l'élever jusqu'à Dieu. Ça, c'est la sève de l'Église. C'est le cœur du mandat d'enseignement de l'Église. Alors ensuite, on fait des sauts, hein, excusez-moi, mais c'est juste pour vous illustrer. Charlemagne, pourquoi est-ce qu'il a fait des écoles ? Alors ça m'avait bouleversé à l'époque. Quand j'ai trouvé ce texte en l'an 800, Charlemagne, il faut établir des écoles où l'on enseigne les lettres et les saintes écritures, de telle sorte que les élèves méritent d'être appelés le sel de la terre et résistent aux hérésies comme à l'antéchrist. Charlemagne. implantation de milliers d'écoles, ça a touché toute l'Europe. La motivation était de former des disciples. Ça, on ne nous dit pas. Hein. Charlemagne a fait les écoles. Ouais, mais attends, pourquoi il les a faites? Hein, c'est vraiment, quand on regarde l'histoire, on est impressionné. Et puis alors, vous avez aussi la création d'universités. Création d'universités au Moyen-Âge. Ce n'est même pas l'Église, ce n'est pas la papauté, c'est des enseignants à Paris, à Bologne, à Oxford, qui se sont mis ensemble en corporation. On appelait ça les universités. Il y avait les universités de boulanger, il y avait les universités de boucher, et le mot université est resté pour les enseignants qui se sont mis ensemble, mais tous mettaient la parole de Dieu comme fondement. Et avant de faire quelque étude que ce soit, tu commençais par les études de les Écritures, la théologie, et ensuite tu te spécialisais. Tu voulais être maître d'école, ok, tu commences par la théologie. Tu veux faire les beaux-arts, très bien, commence par la théologie, l'étude de ma parole. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ensuite, tu te spécialises. Oh là là, c'était... Voilà, ça c'est l'université. Et Paris a enseigné le monde au niveau de la parole de Dieu, dans les plus hauts niveaux intellectuels, au XIIIe siècle. Paris, nous est-il dit, capitale du royaume, enseigne le monde entier, disait un intellectuel de l'époque. Ça, c'est l'université au Moyen-Âge. Il y a des enseignants comme Bonaventure qui disaient ceci, « Je ne peux rien enseigner sans la présence de Christ, professeur d'université, Saint Bonaventure. » Ça, c'est l'histoire de l'université. Vous faites un bond. Donc, on a touché, regardez toutes les flèches. Paris a inspiré toutes les nations avec la parole de Dieu. Quand Jésus nous dit, faites des nations des disciples, pas des gens, mais des nations, historiquement, l'université a été l'outil le plus performant, le plus efficace dans les mains de Dieu pour former et transformer les nations. Il est bien évident que l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait ? Jésus a dit, l'ennemi est venu voler, détruire, il n'a jamais rien créé, mais il vole tout. Alors il vient et dit, oh là là, l'université, ça fait du dégât, ça, dans mon royaume. Je vais la prendre. Petit à petit, il a pris la structure. Vous faites un bond au XXe siècle. La même université de Paris a formé les plus grands dictateurs du monde. Afrique francophone, Vietnam, Cambodge, Chine. Les plus grands dictateurs du monde ont été formés dans l'université de Paris. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'un jour, l'Église a dit, c'est pas à moi de m'occuper de formation. L'Église a dit, moi, j'ai plus besoin. Moi, je m'occupe du SPI. On a laissé ce manteau, le spirituel. Alors ensuite, la réforme arrive, heureusement, hein, de nouveau. Et on l'a lu hier, donc je ne vais pas revenir, mais il disait, je ne conseille à personne de placer son enfant là où les saintes écritures ne sont pas souveraines. Je crains bien que ces écoles nous démontrent qu'elles soient les larges portes de l'enfer, à moins qu'elle ne s'efforce diligemment d'expliquer les saintes écritures, de les graver dans le cœur des jeunes. Toute institution dans laquelle les hommes ne sont pas continuellement préoccupés de la parole de Dieu est vouée à la corruption. Ensuite, vous avez Calvin, donc on a vu les choses hier soir déjà, hein, donc je ne vais pas revenir. Et vous avez la fameuse carte de France. C'est pédagogique de répéter un peu, hein, ceux qui étaient là hier, allez, une couche encore, une couche. Dans la nuit, vous allez voir la carte de France. Oh vous allez dire, Seigneur, stop. Mais non, le Seigneur va vous continuer à avoir cette carte afin que vous priez et que vous réclamiez ce qui était volé. Donc, le fruit de l'enseignement, par exemple, dans la Bible, on voit Josaphat. Chaque fois qu'il y a un réveil dans la Bible, il y a un réveil de l'enseignement. Chaque fois. Josaphat, cœur pour Dieu, qu'est-ce qu'il fait ? Il réveille les Lévites. Il leur dit, allez enseigner dans toutes les villes de Juda. C'est quoi la conséquence ? La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes de Juda qui environnait Juda. Et ils ne firent pas la guerre à Josaphat. Hey, imagine, tu enseignes et la terreur s'empare de l'ennemi. C'est bizarre. Comme tu fais même pas la guerre. Tu enseignes, mais en fait, enseigner, c'est faire la guerre. Enseigner, c'est faire la guerre. Et Dieu dit, enseigne mon peuple, enseigne. Donc voilà, alors, quand Jésus dit, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre, enseigne. Comprenons bien qu'il y a un lien entre l'enseignement et l'autorité. Voyez ? Alors, qu'est-ce que j'ai mis là ? Apprendre pourquoi ? Ah oui. Alors, le but de l'enseignement pour les Juifs et pour la tradition chrétienne, c'était toujours lié à l'adoration. Et on va un peu creuser ça parce que le mandat d'enseignement de l'Église est toujours lié, en fait, au cœur de son mandat, qui est de former des adorateurs. Et alors, ça s'exprime comment? Eh bien, pour les Grecs, apprendre, c'est, le but, c'est comprendre, on schématise un peu, l'homme moderne pour utiliser. Hein. Les Hébreux, ils apprennent pour révérer. Le mot en yiddish, le mot étudier, c'est le même mot que adorer. Impressionnant. Donc, l'étude, c'est de l'adoration. Parce que j'étudie la création de Dieu. Donc, voilà un peu quelques passages bibliques par rapport à la notion de le rapport entre l'adoration. Je ne vais pas aller trop dans le détail là, mais il y a plusieurs choses ici qui peuvent être importantes. Lorsqu'il est dit, par exemple, recherche la sagesse, recherche l'intelligence, donne-toi tout entier à cela, et tu trouveras la connaissance de Dieu. Ça, c'est l'idée de que la sagesse amène toujours à Dieu. Une vraie connaissance amène toujours à la connaissance de Dieu. Vous voyez, on l'a vu dans Romains 1. Et on continue avec Lynn Payne, ceux qui connaissent cet auteur, et Alexandre Vinet, avant, ça je vais déjà rajouter. Alexandre Vinet, c'est un pasteur suisse, 19e siècle, théologien, et regardez ce qu'il dit. L'objectif de l'école est de faire entrer l'enfant dans une contemplation journalière de toutes sortes de merveilles. Les merveilles consolantes de l'amour de Dieu dans les cours bibliques, les merveilles innombrables de la nature dans l'étude des sciences, le livre de la création, les merveilles de notre propre nature, dans l'observation de nos facultés, les merveilles de la parole dans l'analyse et la comparaison des différents modes de communication, ce qui implique l'étude de la grammaire, l'analyse logique, les merveilles de la souveraineté de Dieu, des principes qui régissent en secret l'histoire des sociétés, l'histoire des nations. Un travail comme celui-là prépare à la lutte avec les difficultés, avec les réalités de la vie. Un printemps de la vie passé à ces travaux est une longue fête de l'intelligence. L'école, un lieu de fête de l'intelligence. C'est fort. Et donc l'idée, c'est de reconnaître Dieu et ses merveilles dans toutes choses, dans tous les domaines. Ça, c'est de l'adoration, en fait. Une connaissance qui aboutit à de la reconnaissance. Vous voyez ? C'est de l'adoration. Et nous avons, on continue, hein, Jésus, Lynn Payne, qui dit « Le chevauchement du naturel, du surnaturel est évident, car aussitôt que la nature se révèle d'une façon propre à susciter l'émerveillement, nous nous trouvons déjà dans un autre domaine. Et lorsque Dieu se révèle à travers la nature, nous entrons dans le domaine de l'être absolu. » En fait, imaginez un cours de biologie dans une vision biblique. On étudie l'œil humain, le corps humain. Et puis l'enseignant dit, vous rendez compte, c'est beau. C'est... Et l'enfant, il dit, waouh. Et quand il dit waouh, il adore. Il adore. Je suis étonné de voir que les implantations d'écoles chrétiennes en Suisse, en France, en Belgique, la plupart du temps, c'est les équipes d'adorateurs des églises qui ont démarré les écoles. Avec mon épouse, par exemple, notre premier ministère, c'était l'adoration. Jeune enseignant, j'avais 9 heures de cours dans le public, c'était pas beaucoup. Et puis du coup, on passait du temps dans la louange, dans l'adoration. Et là, Dieu a ensemencé nos vies. Encore dernièrement, j'étais sur Paris, dans une église, tout ça. Et ben voilà, l'équipe d'adoration, eh ben, c'était l'équipe qui allait démarrer l'école. Et ça, je peux vous dire, c'est très souvent, je me suis dit, il y a quand même un rapport entre l'adoration et puis l'école. Eh bien sûr. En fait, si on devait vous donner une définition d'une école chrétienne, c'est un lieu d'adoration. C'est un lieu où l'on apprend à reconnaître Dieu. Voilà. Ça, c'est ça, l'adoration. Ce n'est pas seulement le chant, c'est je reconnais Dieu dans sa création, j'adore. Donc, il y en a un qui ne veut pas qu'on adore. Bien sûr, il ne veut surtout pas. Il ne veut surtout pas que la connaissance aboutisse à la reconnaissance. Voilà. Donc il veut pas. Dieu a dit, je cherche des adorateurs. Hein. Alors juge, l'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Psaume 119, tes préceptes sont admirables, mon âme les observe. La révélation de tes paroles est claire, elle donne l'intelligence au simple. Un enfant nous est né, on l'appelle merveilleux, conseiller. Hein. Donc cette notion de merveilleux, ce que le Père cherche, c'est des adorateurs en esprit, pas seulement en esprit, mais en vérité. Et donc là, nous avons, je crois, le cœur du mandat d'éducation, de l'enseignement. L'enseignement, c'est une question d'adoration. Fondamentalement, c'est ça. Fondamentalement, c'est ça. Et alors, nous sommes appelés à faire que la connaissance aboutisse à la reconnaissance. Tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses. Vous avez remarqué le car? Pourquoi il loue Dieu? car tu as créé. Donc, vous mettez à la place d'ennemi. Il ne veut pas d'adorateur. Qu'est-ce qu'il fait? Il coupe le lien création-créateur. Et dans toutes les institutions de formation, il faut ôter absolument l'idée d'un Dieu créateur. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et je disais, ça fait plusieurs années déjà. Maintenant, il y a une commission au Parlement européen qui étudie le moyen d'éradiquer toutes les institutions de formation qui sont obscurantistes, c'est-à-dire qui véhiculent l'idée qu'il y aurait un Dieu créateur. Voilà. Et là, il y a un sacré combat, un vrai combat. Et nous avons ici, si on enlève la notion de création, on enlève l'adoration. La bataille, elle est là. Psaume 33, 6. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Psaume 19, les cieux racontent la gloire de Dieu. Et Joël, alors là, il y a quelque chose d'extraordinaire dans Job, pardon. Job, qui perd tout, hein, vous connaissez l'histoire, il est malade, il perd sa femme, il perd ses enfants, c'est la cata. Les copains de Job essayent de le remonter, tant bien que mal, ils n'y arrivent pas. Au bout d'un moment, Dieu intervient. Est-ce que vous avez marqué comment Dieu intervient? Dieu dit à Job, bon, écoute Job, regarde les montagnes, et vous avez affaire à un dépressif là. Vous dites, regarde les montagnes, il dit, oh, c'est quand même, j'ai besoin de consolation, quoi, d'affection. Ben non, regarde les montagnes, regarde les oiseaux, regarde la neige, regarde les hippopotames. Et Job, il dit, attends, c'est quoi le rapport entre ma dépression et demander à voir les hippopotames? Dieu, il continue, un chapitre, deux chapitres, trois chapitres. Et à la fin, Job, il dit, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux, ils t'ont vu. Où est-ce qu'ils ont vu? Est-ce qu'ils ont vu Dieu, une forme qui descend comme un ovni? Non! Il a vu Dieu dans la création. Et ça, ça l'a remonté. Ça l'a changé. Ça l'a transformé. Dieu veut se révéler dans la création. C'est pour ça qu'il veut des écoles. Avec des maîtres et des maîtresses qui ont vu avant les enfants ce Dieu de la création, dans sa création. Donc voyez, une pensée qui reconnaît par la foi. Nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu. De sorte que ce qui se voit n'a pas été fait de choses qui paraissent. Et ce Dieu, eh bien, il se manifeste au travers de sa création. Donc, reconnaître Dieu dans sa création, c'est une forme parmi d'autres, mais la plus importante, de la véritable adoration. Donc, en fait, nous sommes dans une guerre d'adoration. Nous sommes dans une guerre d'adoration. Et Dieu dit à moi l'adoration. Tu as fait toutes choses, Seigneur. Tu es digne de recevoir la louange parce que tu as fait toutes choses. En maternelle, nos programmes de maternelle, vous savez c'est quoi? Connaître le Père. Connaître Dieu créateur. Connaître Jésus, le Saint-Esprit. Et connaître la paternité de Dieu, fondement. Un jour, j'ai visité des écoles juives. Je me disais, qu'est-ce qu'ils apprennent, les enfants, les écoles juives? Alors, je suis allé à Strasbourg, avec une équipe. Et en fait, tout le programme de l'école maternelle, c'était autour des fêtes. Ils font la fête tout le temps. Les fêtes, les tabernacles, Pourim, la fête. Et on apprend dans la fête. Mais Dieu, c'est comme ça qu'il veut qu'on apprenne. Il a fait des fêtes partout parce qu'il veut qu'on apprenne dans la célébration et dans la reconnaissance. Et nous, en France, oh, on a du mal à la reconnaissance. C'est terrible. Moi, j'ai discuté, j'ai fait un tour dans une église aux États-Unis à Bethel où ma fille, ils ont une école chrétienne. Et on m'a invité à assister à leur réunion pédagogique. Une fois par semaine, ils ont une réunion pédagogique. Vous savez, ils posent tous les enseignants, ils sont là réunis. Ils commencent par ça. Qu'est-ce que Dieu a fait cette semaine? Et là, vous entendez un enseignant. Voilà, Dieu a fait ça. Dieu a fait ça. Dieu a fait ça. Et pendant une heure, à la fin de l'heure, vous êtes là. Waouh, merci Seigneur, c'est beau. Et nous, nos réunions pédagogiques en France, c'est bon. C'est quoi les problèmes? Alors, voilà, il y a ce problème-là, ce problème-là, ce problème-là. Tu sors de la réunion, mon ami, c'est dur, c'est dur. Donc, on a quand même un problème. Et Dieu dit, j'aimerais qu'on célèbre, qu'on célèbre la vie, qu'on aime la vie. Nous, nos choix d'enseignants, moi, avant, j'aimais bien qu'ils soient, est-ce qu'ils sont enracinés dans la parole de Dieu, c'est bien, hein. Est-ce qu'ils sont participants d'une église locale, c'est bien. Maintenant, je regarde. Est-ce qu'ils sont heureux? Est-ce qu'ils sont contents de vivre? Hein, c'est comme ça. Il faut la joie de vivre. C'est le cœur de l'éducation chrétienne. Tu as de la valeur, tu as une espérance. La vie, c'est chouette. Il y a des bons projets pour toi, mon ami. Go! Ça, ça vous donne le fondement pour tout. Et aujourd'hui, c'est tellement dur. Et vous savez quoi? On ne peut pas transmettre ce qu'on n'a pas. Et quand on n'a pas d'espérance soi-même, quand on ne sait pas qui on est, d'où on vient, où on va, on est paumé, mes amis. Et on transmet ça. Et Dieu dit, voilà, moi j'ai tellement mieux. Donc voilà, le mandat d'enseignement de l'Église, c'est depuis toute la tradition. Ça s'enracine dans la vision juive, hébraïque. Ça continue dans tous les siècles. Ça continue jusqu'au 18e. Et là, pour la première fois dans l'histoire, un homme, Jean-Jacques Rousseau, a dit, tiens, les parents sont inaptes à éduquer leurs enfants. Je cite le discours sur l'origine d'inégalité. Et il dit, c'est à la nation d'éduquer. Et jamais c'était venu à l'idée de personne. Hein. Là, tout d'un coup, il y a un gars qui dit, les parents sont inaptes. C'est à la nation d'éduquer. Et l'idée d'une éducation nationale, heureusement que l'État s'occupe d'éducation, hein, mais l'idée d'une éducation nationale, Jean-Jacques Rousseau. Hegel, ensuite, 19e siècle, philosophe de l'État, l'État, hein, il doit s'occuper de tout. De tout. S'il y a un problème, c'est l'État. Hein. Philosophe, Hegel. Voilà. Donc les philosophies, elles ont imprégné la mentalité même de l'Église. Et on s'est dit, au fond, j'ai des domaines, ce n'est pas mon affaire. C'est l'affaire de l'État, c'est l'affaire des autres. Et alors que le domaine de l'éducation, Dieu dit, c'est ton affaire, parents, Église, communauté chrétienne. Prenez les Juifs à l'époque romaine. Vous savez, leurs enfants, c'était les écoles juives. Hein. Et c'était clair et net. Hein. Et même les catholiques, au niveau théologique, pour eux, c'est très clair. Une école, mettre son enfant, c'est dans une école catholique. Normalement, un bon catholique doit mettre son enfant dans une école catholique. Pourquoi ? J'ai regardé les encycliques du pape. Vous savez pourquoi ? Parce que Dieu a dit, faites des nations des disciples. Voilà. Et nous, évangéliques, on n'a pas ça. On n'a pas ce fondement, cette compréhension. Et du coup, voilà. Donc, voyez, je termine là. L'éducation, mandat de l'Église. Mandat de l'Église en tant que, pas l'Église, vous voyez, institutionnelle. C'est pas l'Église en tant que père et mère, en tant que famille. Voilà, c'est une affaire de famille. Voilà, ça a été toute l'histoire. Et c'est tout à fait récent que ça ne le soit plus. Vito.
On va juste prendre quelques minutes pour se repentir. On a écouté beaucoup de choses. Et en tant que corps, en tant qu'Église, on voudrait juste demander pardon à Dieu de tout ce qui s'est passé, de ces manteaux qu'on a laissés tomber, de cette adoration qu'on a laissée tomber. Juste peut-être incliner vos têtes. Si vous ne le sentez pas, ne le faites pas. Vous ne pouvez pas vous obliger à vivre un temps que vous n'avez pas dans votre cœur. Papa, on vient devant toi en tant que ton corps, que tes fils et tes filles, et on te demande pardon pour ces mentons qu'on a laissés tomber. Pardon pour les mensonges que l'on a cru. Quand on a cru qu'on n'était pas digne d'enseigner, qu'on ne savait pas. Pardon quand on a laissé les philosophies imprégner nos vies, imprégner les vies de nos enfants. Qu'on les a laissés seuls face à ces principautés qui ont modelé leurs pensées. Papa, on te demande pardon. Quand on a même pensé que nos enfants, c'était bien, ça suffisait pour eux, et qu'on a oublié que les nations allaient être tout touchées. Quand notre nation, on a formé des dictateurs qui sont allés toucher les autres nations. Papa, on veut reconnaître que nos pères on fait des erreurs. Et on ne veut pas les juger parce qu'on n'est pas meilleur qu'eux. On demande simplement pardon. Pour qu'aujourd'hui, notre nation change. Pour qu'aujourd'hui, notre nation retrouve le chemin de la vérité et de la lumière. Pour qu'aujourd'hui, là où la corruption vient enfanter dans la vie de nos enfants des choses mauvaises, toi, avec ta lumière et ta vie, tu viennes enfanter la vie. Papa, reprends cet engagement de changer, de regarder à toi et de tout à nouveau se relever. Pardon quand l'adoration a cessé. Et quand on s'est retourné vers nous-mêmes et on a dit, nous sommes dignes d'adoration. Papa, viens changer nos cœurs aujourd'hui. Viens changer le cœur de l'Église et de la nation. Papa, alors qu'on vient commencer à marcher sur ce chemin, je te demande que tu viennes nous accompagner, pas après pas, pas après pas, jusqu'à ce qu'on ait découvert le bon chemin, qu'on ait découvert les antiques fondements et qu'on ait rebâti les antiques ruines. Jésus. Seigneur, merci pour ces temps où tu te révèles à chacun dans les cœurs. Où il y a la tristesse par rapport au passé, aux manteaux qui sont tombés. En même temps, tu suscites l'espoir pour notre avenir, l'avenir de notre nation et pour nos enfants. Merci parce que tu suscites tout à nouveau l'espoir.
Amen. Je termine simplement en pensant à Néhémie, vous savez. Dieu lui donne le mandat de rebâtir la muraille. Vous savez comment il a commencé, Néhémie ? Il a commencé à pleurer. Il a commencé par pleurer. Et je dis, on n'est pas prêt à rebâtir dans quelque domaine que ce soit si on n'a pas pleuré sur le domaine que Dieu nous demande de rebâtir. Et tant qu'on se croit riche alors qu'on est aveugle et nu, on n'est pas prêt à payer le prix pour rebâtir. Et Néhémie, il a vu les brèches dans la muraille. Et comme nous, on contemple les brèches dans le monde de l'éducation. Et Dieu nous dit, mon esprit est sur toi, et je fais de toi un réparateur de brèches. Voilà, donc que parfois ce sentiment de tristesse qu'on a, que j'ai parfois régulièrement aussi, ça produit toujours la vie avec Dieu. C'est pour plus de vie. J'ai vu souvent des démarrages d'école qui sont faits par des parents désespérés de la situation. Ils disent, on ne peut plus continuer, une souffrance. Et Dieu, il prend ça. Et dit, j'entends ton cri et je viens. Vous voyez, c'est ça, ça attire quelque chose de Dieu. Donc voilà, on va s'arrêter là.